Oh, c'est moi qui suis honorée, en fait. On louait Dieu, et à un moment donné, c'est à toi toute la gloire. Et en fait, je ne sais pas vous, mais qui se tient debout parce que, en fait, Dieu est là, parce qu'il ne nous a pas lâchés, parce qu'en fait, il a été avec nous tout le long du chemin. Et ce matin, en fait, je ne me tiendrais pas debout devant vous si ce n'était pas pour Dieu. Et je ne le dis pas légèrement, vraiment. Et aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer une très, très, très bonne nouvelle. C'est qu'en fait, tout ce qu'on vit au quotidien, on n'a pas été créé pour vivre sans Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, dans notre société, ce qui est glorifié, c'est l'individualisme et c'est s'en sortir par soi. Et en fait, on essaye, et même, je partageais ça à une conférence de femmes il y a quelques temps, où au début de notre mariage avec mon mari, dès qu'on se disputait, je disais « Eh ben, de toute manière, je n'ai pas besoin de toi ». Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà sorti ça? Bon, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Mais c'était ce truc, je suis blessée, je me rétracte sur moi-même et je n'ai pas besoin de toi. Et je peux vivre par moi-même, je peux m'en sortir par moi-même, je peux trouver les solutions par moi-même parce qu'en vrai, on a besoin de prouver notre valeur. On a besoin de prouver qu'on mérite d'exister. En tout cas, moi, j'avais besoin de ça. J'avais c'était inconscient, mais c'était, mais finalement, je cours après l'envie de montrer que j'en vaux la peine. Et pour en vouloir la peine, ben, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de moi, de prouver qui je suis par moi-même. Mais vous savez, les premières personnes qui ont essayé de s'en sortir par eux-mêmes, vous les connaissez bien, c'est Adam et Ève. Et le premier geste qu'ils ont posé, c'est de manger du fruit défendu. Ils ont mangé de ce fruit comme, eh ben, je vais maintenant, moi, penser par moi-même. Je vais prendre mes décisions par moi-même. Je ne vais pas suivre tes conseils. Et je vais, moi, ben, on va tester, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la honte. Le premier sentiment qui a envahi Adam et Ève, c'était la honte, c'était la conscience d'être nus et c'était la honte. Et combien d'entre nous, aujourd'hui, on se sépare des autres, on se sépare même de Dieu par honte. On sait que Dieu, il est là. On sait que Dieu, il est omniprésent. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler d'une relation qui est vitale. Alors, vous allez me dire, bah oui, super, une relation avec Dieu, oui, c'est vital, c'est lui qui nous a donné la vie. Mais j'aimerais vous dire même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que son intention en nous créant n'a jamais été, comme je le disais, qu'on vive sans lui. Aujourd'hui, au quotidien, tout ce que tu traverses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis profondément, il est là, il en a conscience, il voit tout, il sait tout. Mais nous, on a encore cette tendance à, quand on vit des choses difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On se met à part, on se sépare, on ne court pas forcément dans ses bras. Alors il y a cette notion de l'amour du Père qui est là avec les bras tendus et il attend qu'une seule chose, c'est qu'on court à lui. Mais combien d'entre nous, on se permet de courir dans ses bras que quand on sent qu'on en est digne? Que quand on sait qu'on se dit, ben là je l'ai mérité, donc je peux courir vite. Mais là, oh, la Bible, elle nous dit qu'on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Qu'on peut s'approcher du trône de Dieu avec assurance. Alors, d'où vient cette assurance? Quelqu'un me rappelait que la Bible, elle dit, n'est-ce pas? Alors, je n'ai plus le nombre exact, si quelqu'un l'a, mais combien de fois la Bible, elle dit, ne crains point. Voilà. Sauf que nous, on se dit, tiens, bah, il nous dit de ne pas craindre, là, je crains. Donc, vu que je crains, je fais quoi? Je ne vais pas aller voir. Parce que lui me dit, ne crains pas. Qui a un peu ce raisonnement? Vous voyez, parfois, on prend les choses dans la Bible comme, et, non, Dieu nous dit de ne pas craindre, et là, je crains, je ne peux pas aller le voir, je ne peux pas aller dans l'intimité avec lui, je ne peux pas aller le retrouver, parce que là, je crains. Et en fait, l'invitation de Dieu, c'est de venir, qu'on vienne à lui pour qu'on gère avec lui. Encore une fois, on n'a pas à gérer nous-mêmes avant de venir dans sa présence. On n'a pas, tu n'as pas aujourd'hui à développer les fruits de l'esprit sans Dieu, en vrai. Et combien d'entre nous, on essaye encore et encore de développer ces fruits-là? En fait, c'est comme si tout est à l'envers. On va essayer de développer. Ah, oh, regarde, j'ai la paix, t'as vu, l'esprit vient en moi. Ah, oh, regarde, j'ai. Et puis, enfin, moi, je suis maman. Il y a des fois, j'ai pas la paix, j'ai pas la patience, j'ai rien. J'ai les fruits de l'esprit, je sais plus comment ça fonctionne. Et dernièrement, j'ai vraiment senti Dieu qui me disait, mais viens, c'est moi qui te les donne. Alors que moi, je courais après ces fruits-là, j'ai envie de plus de patience pour mes enfants, j'ai plus envie de crier, j'ai plus envie. Et des fois, j'ai de la patience. Et à un moment donné, ça explose. Je me suis mis à genoux, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai mis la main, j'ai pas élevé la voix, j'ai fait les formations, tout. Et pourtant, le désespoir d'un coup s'empare de moi, j'ai envie de le coller contre le mur. Et je vois rouge et j'aime Dieu. Et je suis convertie je suis la seule. Et là, tu dis, mais pourtant, ce matin, je priais. Et parfois même, pendant qu'on se dispute, il y a de la louange en fond. Et tu dis, mais comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je peux avoir accès à ces choses extraordinaires que sont la paix, que sont l'amour, que sont la joie, que sont la patience, la tempérance ? Comment est-ce qu'on peut y avoir accès quand on boue à l'intérieur, qu'il y a tous nos traumas d'enfance qui nous sautent à la figure et qu'on ne sait pas nous-mêmes gérer ? Et c'est que souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement occulté le fait que nos émotions, que notre corps et que notre esprit, c'est un cadeau de la part de Dieu. En fait, il nous a donné un corps, une âme qui ressent fort, il y a un esprit pour communiquer avec nous, pour être en relation avec nous, pour nous donner la vie au quotidien. Comment ça se fait qu'on peut accepter le salut, c'est-à-dire là, on lui fait confiance pour la vie éternelle, quoi. Et on l'accepte comme notre sauveur, mais au quotidien, on essaye encore et encore et encore et encore et encore et encore de s'en sortir tout seul. De ne pas prendre conscience. Ou sinon, on va se dire, oui, je sais que tu es là. Et du coup, on a honte. On va juger ce qu'on ressent. On va juger ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'on fait encore ? On se sépare de lui. Et là, je vous parle du quotidien. Je vous parle du moment, comme je disais, où avec votre mari, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Quand avec vos enfants, vous avez l'impression de taper un mur encore et encore et encore. Et là, à chaque fois, tu dis, Seigneur, et là, je me suis vraiment repentie devant l'Éternel, je lui ai demandé pardon. Alors nous, chez nous, il y a quelque chose qu'on a développé, c'est la réparation. Parce qu'on n'est pas très fort encore à vraiment une vie non chaotique. Ah, je suis transparente. Par contre, on s'est dit, tu sais quoi ? Par contre, on veut que nos enfants, si nous, on s'est trompés, on veut qu'ils sachent qu'on est prêt à demander pardon. Et que si on s'est énervé, si on a crié, parce que ça arrive. La dernière chose que je veux, c'est que vous pensiez qu'on gère notre vie beaucoup mieux que la vôtre. Parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui, si je peux me tenir ici, je sais que c'est par sa grâce. Il y a rien d'autre. Et j'aimerais vous dire que ce sont mes compétences, mais même mes compétences, je crois que même mon intelligence, elle ne serait pas développée comme elle est développée s'il n'était pas rentré dans ma vie. Et aujourd'hui, en fait, en vrai, pourquoi est-ce que c'est une relation vitale ? C'est parce que sans lui, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il avait prévu que nous ayons un besoin de lui constant. Il n'a pas prévu qu'on s'en sorte sans lui. Là, limite à l'intérieur, on est là où quand même tu aurais pu nous équiper avec tout pour qu'on soit indépendant. Mais en fait, ce n'était pas son intention. Jamais, jamais, jamais ça a été qu'on soit indépendant. C'est-à-dire qu'il nous a créé avec un esprit pour que nous soyons sa demeure, que nous soyons son temple, c'est-à-dire même nos corps, il les a créés avec une intention de vivre en nous. Et il nous a créés pour que nous, nous puissions demeurer en lui. Et d'après vous, il utilise quoi? Il utilise nos sens, il utilise ce qu'on ressent, notre sensibilité, nos émotions, il utilise notre corps, il utilise notre esprit pour venir nous révéler qui il est. Et en fait, on a eu tendance à séparer le corps, l'âme et l'esprit. Alors, pourquoi moi je vous parle particulièrement de ça? Parce que forcément, ça fait partie de mon histoire. Parce que je suis née dans une famille chrétienne aimante, extraordinaire. Il y en a qui connaissent mes parents. Et vraiment, en fait, j'ai eu la chance de témoigner. En fait, je peux témoigner aujourd'hui que ce qu'ils prêchaient, ils le vivaient à la maison. Et ça, ça a été un fondement pour ma foi. Et ça m'a rendu sécure dans mon affection, dans mon amour. Maintenant, on sait que les parents, on peut faire autant de choses qu'on veut. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et très vite, moi c'était à l'école que c'était très très compliqué. Et vous savez, vous avez des choses, c'est des traumas francs, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose de très violent, intense, et après, ben, tout ce qui en découle, ça impacte votre vie. Mais il y a aussi des micro-traumas quotidiens, de rejet, où on vous méprise, où on vous dit que vous n'y arriverez jamais, où mais et ta tête, et tes têtes en l'air, et ta tête, tu l'as oubliée aujourd'hui. Et en fait, je suis émue parce que je pense à mon fils, parce que mon fils, je sais qu'il vit ça à l'école. Alors, c'est pas tant les professeurs qui sont, mais c'est simplement que quand on a des difficultés, toute la journée, on est en échec, en fait. Et du coup, vous vivez échec sur échec sur échec sur échec sur échec. Et ce que ça vient profondément ébranler, c'est votre capacité à faire les choses. Vous dites, en fait, je suis incapable. Je ne suis pas en capacité de faire les choses. Je suis pas. Et moi, très vite, il y a ce mensonge qui est arrivé dans ma tête. En fait, c'est que je ne suis pas capable. C'est que je ne suis pas capable. Et ce que ça a engendré, c'est une haine de moi-même. Si j'avais su faire, si je savais faire, alors j'aurais pu être aimée. Si je savais faire, alors j'aurais mérité. Si j'avais. Et du coup, c'est étrange, mais ce que ça a développé, c'est une espèce de perfectionnisme à outrance, où d'un coup, je dois mépriser absolument tout ce que je fais. Je dois maîtriser. C'est-à-dire que je vais faire en sorte. Mais tout. C'est fou, hein. Là aujourd'hui, je vais avoir 45 ans. Et j'arrive à décortiquer un petit peu tout ça, mais quand on est petit, c'est instinctif. C'est instinctif, on va essayer d'être aimé, parce que c'est vital pour nous. Dieu, il a créé en nous deux besoins fondamentaux. C'est d'être aimé, et c'est d'être soi. Mais on va toujours choisir, en fait, d'être aimé, c'est vital. Du coup, on va avoir tendance à suppresser qui nous sommes, à modifier qui nous sommes pour être sûr d'être aimé. On va essayer de surcompenser qui nous sommes constamment pour pouvoir avoir ce lien d'amour. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait et très rapidement, j'ai capté certains codes parce qu'en vrai, je ne suis pas bête. En vrai, je suis très très loin d'être bête. Mais là où j'étais, je n'étais pas dans un contexte qui me permettait en fait, d'avoir accès à ma forme d'intelligence, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compensé, j'ai surcompensé. Et dans ma tête, je me disais, OK, ben là, je n'y arrive pas, ben du coup, je vais réussir à l'église. Du coup, je vais réussir, je ne veux pas décevoir mes parents. J'ai vu des gens décevoir mes parents parce qu'ils étaient pasteurs et qu'ils avaient à gérer des situations plus complexes les unes que les autres. Mais très rapidement, moi, je me suis dit, moi, vous savez, des trucs, d'un coup, vous décidez et vous vous mettez en accord avec ça. Vous dites, moi, je ne décevrai pas mes parents. Les autres, peut-être, ils les ont déçus, mais moi, je ne les décevrai pas. En gros, je serai un peu une des sources de leur joie, quoi. Je me prends pour qui? Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en moi. Et la même chose avec Dieu. Les autres, ils t'ont déçu, mais moi, tu vas voir. Moi, tu vas voir, je vais être une gentille petite fille chrétienne, je vais bien obéir, je vais faire tout ce qu'on attend de moi et je vais mériter ton amour. Seigneur, Père, tu vois mon mari? Renouvelle. Mais ce que ça a engendré, je vous ouvre un petit peu des choses, mais parce que je pense que plusieurs d'entre nous, peu importe la cause, on arrive souvent un petit peu au même résultat, même si c'est des chemins différents, même si c'est d'une intensité différente. On en arrive tous à un moment donné à quand même essayer de prouver notre valeur. Parce qu'en fait, c'est à nous-mêmes qu'on a besoin de la prouver, cette valeur. Parce que Dieu, il sait déjà exactement ce dont on est capable. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il a placé des chemins tout tracés. C'est-à-dire qu'il a placé des choses dans vos cœurs qui viennent de lui. Et quand il vous a créé, il ne sait pas juste « je vais créer une masse de cellules qui va bouger ». Et c'est dit non, il a pensé à des détails, à des choses qui vous rendent aujourd'hui uniques. Et pourtant, on essaye tous de se ressembler. On se compare constamment. Moi, la première, je ne sais pas, je ne prêche pas comme mon mari. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on va arriver à un résultat peut-être similaire, mais enfin, quand même pas pareil, on n'a pas le même process. Et encore une fois, moi j'ai bataillé avec Dieu parce que je me suis dit, non mais si seulement tu pouvais m'aider Seigneur à avoir 3 points très clairs que ça me rassurerait. Alors j'ai mes points, mais parce que mon mari m'a aidée. C'est la réalité. Et en fait, si je me reposais juste sur mes capacités ou juste sur comment je pense que quelqu'un devrait prêcher, par exemple, je ne serais même pas là. Parce que moi-même, je ne me qualifierais pas. Par contre, ce que je sais faire, c'est partager mon cœur. Et vous voyez l'équipe qui est là, il y a quelques dimanches en arrière. Quelques dimanches en arrière, je devais prêcher. Et j'ai complètement flippé juste avant de prêcher, quoi. J'étais en pleurs, genre, Seigneur, et s'il n'y a rien qui sort de ma bouche? Alors que j'allais travailler et tout, hein, mais en mode... Tiffany et Aurélie, les deux, en plus elles sont rentrées, mais par hasard, là où j'étais, elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais Elisa, mais on n'a pas envie que tu sois autre chose, on n'a pas envie que tu fasses autre chose. Nous, on aime quand tu partages ton cœur. D'un coup, il y a un poids qui s'est levé de mes épaules. Et en fait, tu te dis, est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Cette pression de compétence, de performance qu'on s'impose sans cesse, ce à quoi on imagine qu'on devrait ressembler, ce à quoi on imagine qu'on devrait être, c'est épuisant. Et pour quelqu'un qui a énormément travaillé à essayer d'être accepté, à essayer d'être aimé, à un moment donné dans ma vie, j'acceptais les compliments que si je m'étais maquillée et apprêtée. Bah ouais, je le mérite parce que j'ai passé en une heure encore heureux, quoi. Non ? Mais comme je suis telle que je suis, si on me disait, on me faisait un compliment, dans ma tête, profondément, j'étais là, menteur, menteuse. Parce que moi-même, je ne m'en pensais pas digne. Et ça n'a rien à voir avec à quoi je ressemble réellement en vrai. Parce qu'en fait, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment nous, on se perçoit. Et c'est ce que nous, on accepte de la part de Dieu ou pas. Sa vérité ou pas. Qu'est-ce que lui dit de moi? Et en gros, est-ce que je vais avoir l'humilité? Parce qu'en vrai, parfois, c'est mourir à soi que de s'accepter soi-même. C'est à un moment donné, c'est de dire, je dépose les armes. En fait, j'ai plus envie d'essayer de plaire à tout le monde. J'ai plus envie d'essayer encore et encore de satisfaire tout le monde. Et vous savez quoi? En vrai, ce n'est pas notre job. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas notre responsabilité de les contenter. Même mon mari, mes enfants, il y a quelques temps de ça, j'ai une révélation là-dessus. J'étais là, mais comment ça se fait que toute ma vie, je n'ai pas réalisé ça, que je ne suis pas en charge du bonheur des autres? Parce que moi, je portais, et je pense qu'il y a... C'est peut-être quelque chose... Alors, ce n'est pas que féminin, parce que je pense qu'il y a un petit peu... Mais beaucoup de mamans, on est un petit peu quand même là, ma fille, mon fils, voilà, mon mari. Et en tout cas, il y a ce truc, on essaye de faire le bonheur de tout le monde, de contenter tout le monde, de courir après ça, de se dire, ah là, ouh, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Ah, boum, il y en a un qui se casse le poignet. Ça, c'est ma semaine. Bonjour. Cette semaine, j'ai fait un malaise mardi. J'étais à la danse, parce que j'ai repris la danse. Je dansais, à un moment donné, j'étais là, ouh, je me sens pas bien, ouh. Et Jonathan a dû venir me chercher, mardi. Donc là, je me suis dit, est-ce que je prêche dimanche? Et jeudi matin, notre fils Aidan glisse sur un banc et se casse le poignet. Et là, t'es là, tu te dis, mais en vrai, c'est la vie, en vrai. Je sais pas, mais quand... Enfin, ne soyons plus étonnés, juste qu'il arrive des choses, en fait. On a l'impression que quand on se convertit, finalement, Dieu il va nous protéger. Mais ce n'est même pas nous protéger, c'est que finalement, Dieu ne va rien, que rien nous arrive. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas sa promesse. Et sa promesse, ce n'est pas une vie de confort. Alors, je sais que ça, c'est... Parce qu'en même temps, il a des promesses extraordinaires à notre égard, mais c'est la promesse, ce n'est pas le confort. La promesse, vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que la bonté de Dieu représente ? C'est qu'on soit la ressemblance de Christ. Et donc, quand nous, on imagine la bonté, on imagine tout ce qui est tout doux, tout mou, tout sucré, tout, il n'y a pas de douleur, il n'y a que du confort. Ça nous tue. Quand on arrête de bouger, ça nous tue. Quand on mange que des choses sucrées, ça nous tue. Quand on consomme que des choses qui nous font du bien. Alors attention, le plaisir, on est d'accord, il est important. Mais ça ne peut pas être notre nourriture principale. Parce que c'est pas le confort qui nous fait mûrir, qui nous fait grandir, qui nous développe, qui nous fait aller de l'avant. C'est pas le confort. Vous voyez, même dans nos voitures, bah maintenant, j'en rigolais avec une copine, elle m'a fait rire. Elle m'a dit, j'ai demandé au concessionnaire qu'il laisse la poignée. Je veux fermer ma vitre toute seule. Et j'étais là, c'est un peu extrême quand même. Mais dans son idée, c'était... elle avait un peu une sorte de j'en ai marre qu'on n'ait plus rien à faire, même pour baisser la vitre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a absolument tout qui nous éloigne de la douleur, qui nous éloigne de l'inconfort, qui nous éloigne. Et du coup, aujourd'hui, quand on est en inconfort ou quand on est en douleur, on est là, Seigneur, tu m'as abandonné. Et tu dis, non. C'est juste que parfois, je suis le Dieu des miracles. Et parfois, je suis le Dieu compagnon qui va être avec toi et qui va traverser, qui est toujours le Dieu des miracles, mais juste une autre forme. Et ça, dans ma vie, c'est ce que j'ai expérimenté. C'est que on veut un Dieu magique. On veut un Dieu un peu genre le génie dans la lampe. On frotte, il sort, et on a juste à lui donner nos souhaits pour qu'il enlève toutes les choses qui nous embêtent au quotidien, qui l'améliorent notre vie. Et en fait, Dieu, ce n'est pas un Dieu magique. Ce n'est pas de la magie. Il est puissant, et il ne s'y prend pas de la même manière. Et comme je le disais, sa bonté, la plus grande preuve d'amour qu'il peut avoir à notre égard, c'est de nous pousser à la ressemblance de Christ. Et souvent, on est d'accord d'accepter ce que Christ a fait pour nous, mais on a du mal à accepter que Christ le fasse en nous, qu'il vienne développer, lui, le pardon, qu'il vienne développer, lui, la grâce, qu'il vienne développer, lui, en nous, l'amour inconditionnel, qu'il vienne développer la patience, la tempérance, les fruits de l'esprit. Il n'y a que quand on rentre sur le chemin de la ressemblance à Christ qu'à un moment donné, il y a une mort à soi. Et il ne fait pas mourir vos, vos, Il ne fait pas mourir les choses que lui, il a placées. Il fait mourir les choses qui vont vous empêcher de réaliser ce qu'il a placé en vous. Et par exemple, moi d'être ici ce matin, en vrai, mais Seigneur, mais t'es tellement bon. Parce que quand j'avais une vingtaine d'années, je suis tombée très 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 gravement malade. Alors moi, je vous parle des émotions, mais j'ai eu une rupture très compliquée. Et pareil, je me suis tellement blâmée dans cette rupture où je me suis dit, c'est parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente. Si j'avais été mieux, ça ne se serait pas passé. Et j'étais tellement rigide dans mon perfectionnisme et j'avais dit, le prochain c'est le bon, je suis chrétienne, j'attends, bla, tout ça, que dans ma tête, c'était impossible de lâcher. Mais en fait, c'est devenu quoi ? C'est devenu de l'idolâtrie. C'est devenu une addiction. Pas tant parce que j'aimais la personne, en vrai. C'est parce que je renonçais que ça ne marche pas. Et je commençais à m'acharner. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais en déni total, en vrai, de tout ce que je ressentais, quand ça s'est brisé, c'est comme si je me suis brisée de l'intérieur, comme si je me suis déchirée de l'intérieur. Et j'ai commencé à avoir des symptômes peu de temps après. Je suis partie faire une école biblique en Norvège, une école de musique et une école biblique, suite à ça. Et en fait, pendant, on faisait une comédie musicale, et là, vous savez, la bonté, la grâce de Dieu, c'est que pour la première fois de ma vie, donc je disais à l'école c'était compliqué, il a ouvert les portes pour que j'aille faire une école de musique. C'est pas extraordinaire ça. Lui, il a dit, t'inquiète pas, moi j'ai tes arrières, je sais, moi ce que j'ai placé sur ta vie, et je vais ouvrir les portes. Il a ouvert les portes pour une école de musique. Ensuite, il a ouvert les portes pour une école biblique avec louanges, comédie musicale, théâtre, danse, tout ce que j'aimais. J'étais dans mon élément. J'ai eu le premier rôle. J'avais 21 ans. On a fait une tournée. On a fait une tournée en Europe. J'ai vécu des choses extraordinaires. Et là, à ce moment-là, je me dis, ma vie, waouh, qu'est-ce que ça va être? Wouh! J'ai 21 ans. Moi qui croyais, enfin voilà, en fait, moi, je pensais que ça y est, ma vie, c'était ça. La difficulté, elle était là. Elle est surpassée. Maintenant, et en fait, je tombe malade. Et je tombe malade au sommet de ma gloire, comme dit Jonathan. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que je peux plus rien faire. Je peux plus rien bouger. Je peux plus bouger. Je suis tellement anémiée que je marche. Je suis comme ça. Je respire. J'ai 22, 23 ans à ce moment-là. Et j'ai ma vie qui s'écroule du jour au lendemain. J'ai tout qui s'écroule. Et on m'annonce qu'en gros, si je ne me fais pas opérer, c'est cancer ou c'est perforation. Donc en gros, mais moi, je ne trouvais pas ça glorieux. Donc moi, j'ai dit non, c'est pas glorieux. Puis en fait, je ne connaissais pas. J'avais jamais vraiment été malade dans ma vie, à part des maux de ventre. Donc là, quand il m'annonce ça, je me dis, je renonce à ça. Donc en fait, je n'étais pas à l'écoute de mes émotions, je n'étais pas à l'écoute de mon corps. J'ai laissé traîner. En fait, quand je suis tombée malade, j'étais en école biblique, et c'est non, par la foi, je vais guérir. C'était pas de la sagesse, c'était de l'immaturité. Et c'était qu'en fait, je renonçais à écouter le corps que Dieu m'a donné au travers du corps. Quel il est en train de me parler, et je renonçais d'écouter aussi les émotions qu'il m'avait données. Et en fait, à un moment donné, mon corps, il a crié plus fort. Il y en a, ils étaient là, c'est des attaques. Satan, il va exploiter tout ce qu'il peut, d'accord ? Satan, il est là pour exploiter la moindre de nos faiblesses. La moindre chose, il va venir, il va l'exploiter pour nous tuer. Oui, c'est un fait. Par contre, j'ai envie de dire, à un moment donné, c'est bien aussi que nous, on réalise sans culpabilité, mais la part de responsabilité qu'on a jouée et les accords que nous, on a pris, les mensonges avec lesquels on a grandi et qu'on a laissé nous former au lieu de la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, il y a eu un moment dans ma vie, oui, on sait qui est l'ennemi, je ne me trompe pas d'ennemi. Par contre, c'est pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais t'es la fille !» à l'époque. « T'es la fille la plus chrétienne que je connaisse !» Comment ça a pu t'arriver à toi ? Et en vrai, je le pensais aussi. Je me suis dit, tout ça, toutes ces années à essayer de suivre les règles, à obéir, à tout faire bien, à pas me rebeller, à... parce qu'en fait j'avais profondément le besoin d'être aimée, d'être validée, pour finalement être au fond d'un lit, malade, où j'ai failli mourir je ne sais combien de fois, et où tu souffres, et la souffrance en continu, et là tu dis mais... Et là j'étais en colère. J'étais en colère, j'étais en incompréhension, j'étais dans le doute, j'étais... Est-ce que vous pensez que Dieu, il a bougé d'un iota me concernant ? Non, il est resté, il était là, et il m'a visité comme jamais, il m'a visité dans ma vie, alors que j'avais rien fait, j'avais pas fait une heure de louange avant, et la présence de Dieu est venue, j'avais pas prouvé tout ce que je savais faire, et la présence de Dieu, elle est venue, non, c'était... moche, ça sentait pas bon, c'était chaotique, j'étais émotionnellement, j'ai fait une sorte de burn-out en même temps, parce qu'à l'école biblique, on était tellement sollicités que en fait, j'étais épuisée. Et en vrai, il y a eu un moment où je me suis dit, enfin ça s'arrête. En moi, je me suis dit, enfin ça s'arrête. Alors que je suis malade, alors que c'est pas ce que j'ai envie, mais d'un coup, c'est genre... Enfin, il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui s'exprime, il y a quelque chose qui crie. Enfin, c'est comme j'existais plus au fond de mon lit que sur une scène où je pouvais prouver tout ce que je savais faire. À ce moment-là, j'ai existé plus dans les bras de Dieu. Parce que enfin j'étais aimée sans rien faire, enfin j'étais pleinement acceptée. Je l'ai toujours été, mais d'un coup ça a atteint mon cerveau et mon cœur et mon corps. Et d'un coup c'est un peu, à un moment donné t'es obligé de passer de l'autre côté, tu lâches tout parce que tu peux plus, t'as même plus la force de travailler à ou de créer toi-même. Et tu es obligé d'accepter une chose, c'est que si tu es encore là, c'est la grâce de Dieu. Et quoi que vous traversiez, vous, aujourd'hui, peut-être vous, et franchement, quand on est dans la douleur, c'est normal qu'il y ait des émotions qui jaillissent, qui sont plus violentes les unes que les autres. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu, il est là. Dieu, il est là. Quoi que vous soyez en train de traverser aujourd'hui, il est là. Il sait exactement ce que vous vivez. Dans le psaume 139, il est dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Il n'y a pas un endroit où on puisse fuir l'amour de Dieu. Le jour où il a dit « Tout est accompli », il était déjà au courant de tout ce que vous alliez vivre. Il était déjà au courant de tout, toutes les fois où vous alliez douter, vous alliez être en colère, vous alliez sentir de l'incompréhension. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous lancer cette invitation. Est-ce qu'on peut commencer à faire des prières honnêtes ? C'est quoi une prière honnête ? C'est « j'ai mal, j'en ai marre, ça m'énerve, je suis en colère, je suis en colère contre toi, je comprends pas ce que tu as fait, je suis misérable, je n'ai plus d'espoir, je ne ressens plus rien, je n'ai plus envie de rien. » Mais je viens de lui dire, à lui. Mais je viens d'accepter sa présence dans ma souffrance, je viens d'accepter sa présence dans ce que je vis. Et t'as pas besoin d'être au fond d'un lit d'hôpital, t'as pas besoin, c'est juste dans ton quotidien, quand tu souffres, quand il y a quelque chose qui vient te chercher, quand il y a une difficulté qui vient t'étirer encore, et tu dis « encore !» Et tu dis « je suis là, j'ai pas bougé. » et on aimerait que le Dieu des miracles enlève tout du jour au lendemain. Et parfois il le fait et il est Dieu tout puissant, il est souverain, mais il est souverain aussi quand il décide d'être notre compagnon de route et de traverser tout ce que nous traversons et de ne pas quitter notre côté. Et si seulement on le prenait en considération. Aujourd'hui, tous les jours, on se sépare de lui encore et encore, dès qu'on a honte ou dès qu'on juge ce qu'on est nous-mêmes en train de ressentir, comme pas digne. Elle lui dit, viens, t'as la crainte, viens, emmène-moi ta crainte. Je vais être là avec toi dans la crainte. Je vais être avec toi dans la colère. Je vais être avec toi dans ton doute. Je vais être avec toi dans ton incompréhension. Et à quel point c'est libérateur de ne plus être seul dans les endroits sombres. Arrêtons de faire comme s'il n'était pas là dans nos endroits sombres. Acceptons sa présence. Je ne dis même pas invitez-le parce qu'en fait, il est déjà là. C'est acceptons sa présence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le challenge que je vous donne aujourd'hui, c'est peut-être de fermer les yeux, de dire Seigneur, je t'apporte. Je ne sais pas c'est quoi ton truc en ce moment. Qu'est-ce qui vient te mettre le doute ou faire jaillir de toi des sentiments très violents. On n'a pas de contrôle sur ce qu'on ressent. Et j'aimerais aujourd'hui te dire que ce que tu ressens, c'est un cadeau de Dieu. Ton corps, c'est un cadeau de Dieu. Et tu t'es tellement séparé, tu t'es dissocié de ces choses parce que peut-être tu as vécu des choses atroces et violentes et douloureuses. Mais aujourd'hui, Dieu vient, il te dit, viens, reviens dans ton corps. Reviens dans ton âme, reviens dans ton esprit. Je suis là. Tu n'es pas seul, c'est moi qui te protège. Reviens à la vie, c'est moi qui te donne vie. Je redonne vie à ton corps, je redonne vie à ton esprit, je redonne vie à ton âme. Et aujourd'hui, j'appelle à une réconciliation entre ce corps, cette âme et cet esprit que Dieu nous a donné en cadeau pour qu'on puisse le louer, pour qu'il puisse demeurer en nous et pour que nous puissions demeurer en lui au travers de ces choses. Je prie pour une restauration dans l'intention de Dieu dans les cadeaux qu'il nous a faits. Je prie pour une réconciliation. S'il y a des gens qui ont maltraité ton corps, ou si même toi-même tu l'as maltraité, si toi-même tu as renoncé un jour à avoir des émotions en te disant « je serai plus en sécurité et ça va, je ne vais plus souffrir si je me sépare, si je me dissocie de mes émotions », aujourd'hui je prie que Dieu puisse venir rétablir ces émotions en toi et que lui puisse régner dedans. Si tu le tiens à l'écart, il ne peut pas régner dans ce que toi-même tu ne reconnais pas. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne laisse plus l'anxiété te condamner. N'attends plus de ne pas avoir... Tu dis le jour où j'aurai plus d'anxiété, où j'aurai plus de peur, où j'aurai plus de crainte, où j'aurai plus de douleur, où j'irai voir Dieu. Non, c'est maintenant. Ta seule porte de sortie, c'est d'accepter sa présence dans ce que tu ressens et dans ce que tu vis là maintenant. Il veut te révéler son intention, il veut te révéler pourquoi il t'a créé comme ça. Il t'invite à cette réconciliation. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est notre seul espoir, c'est d'arrêter de vivre seul, c'est d'arrêter de vivre comme s'il n'était pas là. En Jésus, il a tout reconnecté, tout accompli, pour qu'aujourd'hui, au quotidien, nous puissions vivre avec lui constamment.
Est-ce qu'on peut se lever ensemble si vous voulez bien ? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui se disent « Seigneur, je n'y arrive pas ». Juste levez votre main à votre place. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont ici dans cette salle et qui disent « Seigneur, je n'y crois plus ». Levez votre main là à votre place. Et comme le disait Elisa, je crois que Dieu veut venir à nouveau dans ces endroits sombres, dans ces endroits où on s'est séparé, on lui a dit laisse-moi seul, là où il y a de la honte. Et il y a cette invitation de Dieu à venir reconnecter avec toi. Alors pour tous ceux qui ont levé la main, j'aimerais qu'on fasse une prière très simple ensemble si vous voulez bien, mais que vous puissiez lui dire Seigneur Jésus, tout simplement, et vous le répétez avec moi, Seigneur Jésus, j'arrête de me cacher. Je viens vers toi parce que je sais que tu peux tout. Je baisse les armes. J'arrête de fuir. Et je te reconnais comme Seigneur, Roi et Maître dans ma vie. Change-moi, transforme-moi afin d'être à la ressemblance de ton Fils Jésus. Amen. Tous ceux qui ont fait cette prière, est-ce qu'on peut juste tendre les mains au ciel, et peut-être pour tout le monde. Mais c'est comme s'il y a cet amour du Père, à nouveau cette plénitude du Saint-Esprit qui, waouh, veut tomber sur vous. Juste recevez, prenez, buvez. Alléluia. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait un vent, une effusion de l'Esprit à nouveau, avec force. Dieu n'a pas prévu à ce que tu continues la marche sans lui. Il est là et je te prie, Seigneur, qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait un souffle nouveau, wow, à nouveau avec force et avec puissance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.